Dans Info 30 aujourd'hui, on évoque ce mouvement national d'occupation de lieux culturels. Avant de parler de ce qui se passe ou pas à Arras, on va faire un petit tour du côté de Calais. Là-bas, un collectif occupe actuellement, depuis mardi, le Chanel, scène nationale de Calais. On a pu s'entretenir par téléphone jeudi après-midi avec l'un des participants de cette occupation.
Je suis Mathieu, je suis auteur, poète, slammeur, j'anime des ateliers d'écriture sur Calais principalement. Et j'essaye de bouger un peu, d'élargir le territoire, mais principalement depuis Calais.
Donc là, tu participes à l'occupation du Chanel. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire un petit peu qui occupe en fait ? Ce sont des artistes intermittents comme toi ou qui organisent ça en fait ?
On est des citoyens avant tout concernés par la case de l'assurance chômage, par la précarisation. Donc ouais, on est principalement des intermittents, des artistes, il y a des musiciens, comédiens, il y a des habilleuses, il y a des régisseurs son, lumière, enfin voilà, il y a aussi un peu de lycéens, gens au chômage, enfin voilà, c'est un peu plus large que simplement la culture, mais principalement il y a des gens qui viennent du milieu culturel.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu aussi des motifs de revendication, en fait ?
Bah, la revendication, c'est simple. Hein. Nous, on s'inscrit dans le mouvement national et les revendications rejoignent celle-ci, à savoir que, dans un premier temps, on demande la prolongation de l'année blanche. Surtout, on demande son application à l'ensemble des intermittents de l'emploi, donc pas que des intermittents du spectacle, mais vraiment aux intérimaires, à tous ceux qui galèrent, quoi. À tous ceux qui sont dans la précarité. On demande aussi l'abandon définitif de la réforme annoncée de l'assurance chômage. Dans un deuxième temps, on demande la réouverture des lieux de culture. Il y a des protocoles sanitaires validés scientifiquement qui existent. Donc on demande la réouverture des lieux, non seulement donc pour permettre aux artistes de créer, de travailler, aux techniciens, mais aussi pour que les publics puissent penser, rêver, danser et vivre. Et on demande un plan de financement massif de soutien à l'emploi dans le secteur culturel, notamment pour l'insertion professionnelle des jeunes en formation. Voilà. Et puis l'idée, c'est aussi, en occupant, d'ouvrir un lieu d'expression, de rencontre, de partage, un lieu de soutien pour tous. Hein. Il nous semble urgent de réagir aux lois existantes et futures qui sont promulguées, notamment, je le disais, les lois sur l'assurance chômage, les retraites, la loi aussi de sécurité globale, et puis plus globalement, toutes les lois menaçant les principes républicains de liberté, d'égalité, de solidarité.
Alors, sur le volet sanitaire, par rapport à la réouverture des lieux culturels, comment vous voyez les choses, ce mouvement qui arrive à ce moment-là, de l'épidémie aussi ?
Comment dire, enfin, on n'a pas voté de toute façon pour l'instant d'occupation ce week-end ou non par rapport au confinement. Il y a des protocoles qui existent, qui ont été validés scientifiquement. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire que c'est la considération qui est renvoyée par les gouvernants, puis par les chaînes de télévision. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'ouvrir des théâtres, de faire des concerts, alors que toutes les salles de cinéma, de théâtre, de concerts, elles savent pratiquer un protocole sanitaire qui permet d'assister à ces représentations en toute sécurité. Elles n'ont pas le droit de le faire. Et puis, dans le même temps, sur les écrans de télé, dans les ministères, on voit bien que ces choses-là, elles ne sont pas appliquées. Donc forcément, quand on fait partie du peuple, on sent bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Et c'est insupportable pour nous. Et puis, ça dit aussi beaucoup de choses sur le mépris de nos métiers, du secteur culturel en général, mais pas que, mais en tout cas, oui, de ce point de vue-là, du secteur culturel. Et nous, on ne peut pas tolérer ça, parce que pour nous, la culture, c'est essentiel, l'éducation, c'est essentiel, l'ouverture d'esprit, la rencontre, le partage, c'est essentiel. On ne peut pas vivre sans ça, en fait.
Il y a cette question de la prise en considération, il y a aussi la question de l'avenir, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être perdre le statut d'intermittent, il y a des créateurs qui ne savent pas s'ils pourront travailler ou diffuser leurs travaux, etc. C'est une crise qui s'annonce dans le domaine culturel.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on demande un plan de financement massif de soutien au secteur. Parce que, comme tu le dis, les compagnies qui n'ont pas pu proposer leur spectacle cette année à des producteurs, ben, vont pas pouvoir le tourner l'an prochain, vont peut-être même pas pouvoir le présenter cette année 2021, donc pas le tourner en 2022. Enfin, en fait, voilà, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre partout en France, des petites compagnies, des musiciens, des gens qui sont pas des stars, qui passent pas à la télé, tout ça, mais qui font vivre le maillage culturel du pays et qui, eux, se retrouvent dans la galère et sans lendemain. C'est-à-dire qu'on est arrêté et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Et on a aussi conscience, tous les petits, que quand on va pouvoir reprendre, quand les salles elles vont rouvrir, elles vont déjà reprogrammer ce qui a été annulé, ce qui est normal d'un côté, tu vois. Mais ce qui retarde d'autant plus la visibilité de tous ceux qui suivent, en fait. Donc, il y a une crise qui est annoncée, c'est clair. Là, ça fait un an qu'on est à l'arrêt, ça fait un an que le gouvernement nous méprise, en fait. Méprise tout le secteur et en fait va plonger des milliers de personnes dans la précarité, tout bêtement.
Et en même temps, votre occupation, dans, en tout cas c'est ce qui ressort aussi du texte et de ton discours, elle s'attaque à d'autres thématiques. Il y a l'idée de faire converger différentes luttes dans le cadre de ce mouvement.
Oui, on est... on suit un mouvement initié par l'occupation de l'Odéon, donc forcément, on a l'impression que c'est le secteur culturel qui se mobilise, mais on se mobilise effectivement pas que pour nous. On a tout à fait conscience que la précarité, elle dépasse largement notre secteur. Je dis, nous, ça fait un an qu'on est arrêté, mais on n'est pas les seuls. Les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, on va parler de la casse de l'hôpital public. Tu vois, on est dans une crise sanitaire depuis un an. En un an, on a continué à fermer des lits en France, alors que ça devrait être l'inverse, on devrait réquisitionner. Enfin voilà, il y a plein de secteurs qui sont comme ça abandonnés, qui sont en détresse, et tout ça, c'est toujours le peuple qui paie, en fait, quoi. Et puis, le thème central, c'est la précarité, c'est vraiment ça. On a une société qui est globalement en train de se précariser, pas que le secteur culturel, plein d'autres secteurs, et c'est un vrai danger, socialement, vraiment, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'occupation, comment ça se passe en fait, comment vous organisez les choses au sein du Chanel, scène nationale de Calais?
Écoute, tout bêtement, nous on est là que depuis mardi pour l'instant, hein, c'est très récent, donc on organise au jour le jour. Le matin, on se rencontre pour une AG qui est publique. Les gens qui veulent venir sont les bienvenus et pas que du secteur culturel. Tout le monde, quoi. Les chômeurs, les gens qui ont 5 minutes qui veulent passer, les gens qui sont en détresse, les restaurateurs qui sont fermés depuis des mois, s'ils ont envie de venir parler et puis s'emparer un peu aussi de cet outil commun qu'on met à dispo, ils sont les bienvenus. Donc l'idée, c'est ça, c'est que le matin, on se rencontre. On fait une AG, puis on organise un peu la journée, les actions à venir. Puis l'après-midi, on s'y colle, quoi. Il y a des collages d'affiches, notamment hier. Il y a des préparations de banderoles. Et puis, pour l'instant, comme je dis, on commence. Et puis, on est dans le même temps en train de préparer une manifestation samedi, 14h, sur le parvis du Grand Théâtre à Calais. Manifestation de soutien aux précaires et au monde de la culture. Donc, nos journées, elles sont un peu occupées par ça. Mais le but, ça va être de dépasser ça derrière. On aimerait bien... on attend que les gens viennent nous rejoindre parce qu'on a aussi envie d'échanger avec des gens qui sont pas forcément que de notre secteur. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on essaye d'appeler à la convergence. Et pour ce faire, on a besoin que les gens viennent nous expliquer leurs problèmes et de voir comment on peut coordonner tout ça, quoi. Comment on peut allier les revendications ou s'entraider déjà pour dépasser certaines difficultés. Nous, on est en lien depuis hier avec les théâtres occupés à Lille, à savoir le théâtre de Sébastopol et le théâtre du Nord. Donc, on se coordonne avec eux, on regarde un peu ce qui se passe dans le reste du pays. Mais comme je te dis, on est au premier jour, donc... pour l'instant, c'est pas hyper concret. Mais en gros, on appelle au soutien en lien avec les théâtres de Lille. Voilà, on a signé un appel conjointement. Et on appelle l'appel au soutien. Ça peut être des soutiens moraux, c'est-à-dire des encouragements, des petites vidéos, des textes à nous faire parvenir. Ça peut être du soutien financier, évidemment, on accepte les dons. Et puis surtout, nous, ce qu'on demande, c'est le soutien physique, c'est-à-dire que les gens viennent, quoi. viennent soit avec nous.
Il y a une question que ici des intermittents à Arras se posaient hein, sur l'opportunité d'occuper un lieu culturel. Il y avait ce type de discours qui disait ouais, mais quand on occupe un lieu culturel fermé, on fait chier personne. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Comment tu vois cette réflexion, ce discours?
Bah écoute, moi je suis assez d'accord, on fait chier personne, mais justement on n'est pas là pour faire chier les gens. Nous, on occupe un lieu qui est fermé pour représentation, mais le Chanel, il est ouvert à ses artistes et à ses artistes résidents depuis le début, avec des mises à disposition de salles pour répéter, des choses comme ça. Nous, on occupe un lieu qui serait vide sinon, donc on n'est pas là pour embêter les gens. Et puis, comme tu dis, c'est des lieux fermés, mais ben, justement, l'inverse, c'est qu'on est en train de les ouvrir en invitant les gens à nous rejoindre. Hein, nous, on fait un lieu de, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage. Ce que je dis depuis le début, les gens sont invités à nous rejoindre, donc le lieu n'est pas fermé. On n'est pas en train d'occuper un lieu fermé, on est en train d'occuper un lieu qu'on ouvre au public. Et pas dans le sens où on va faire des concerts et tout, mais un lieu qu'on ouvre au public pour se rencontrer et échanger autour de ces questions-là, justement.
Mathieu, auteur, poète, slammeur et animateur d'ateliers d'écriture, il fait partie du collectif qui occupe actuellement le Chanel, scène nationale de Calais. On va revenir sur Arras où d'autres actions ont été organisées. On vous a parlé lundi dans Info 30 du rassemblement Culture en danger organisé sur la Petite Place samedi dernier. On écoute les points de vue de deux formations politiques locales sur la question. Avant l'écolo Grégory Watin, c'est d'abord la France Insoumise Arras, Philippe Audegon et Frédéric Beunier au micro de Radio PFM ce jeudi matin.
Samedi matin, devant le Beffroi, moi j'ai été surpris et très agréablement surpris par tout le monde qui avait, les gens qui s'agrégeaient et qui chantaient, qui dansaient. Ça se voyait dans les regards que ben, y a un manque, quoi. Les gens, ça va plus si on continue comme ça. Ben, y a aussi des suicides. Hein. Des gens en ont parlé autour. Alors, il va falloir ouvrir des hôpitaux psychiatriques. Macron, il veut fermer les hôpitaux. Il continue d'ailleurs. Hein. Alors, donc, on sent qu'il y a un besoin de quelque chose, de se retrouver, d'aller au théâtre, au cinéma, bien sûr, on va me dire, on n'y va pas tous les jours, c'est vrai, mais quand même, tout ça fait partie, la culture, elle est vaste, elle est entière, ça peut aussi bien être aller dans un musée, aller à un concert, aller voir des tableaux de peintres, enfin, c'est une chose qui est pour nous dans la vie essentielle.
Le mal-être existe, l'être humain n'est pas un être économique qui ne vit que grâce au travail et que pour le travail. C'est un être social qui a besoin de contact humain, donc qui a besoin d'aller boire un café avec des copains, avec des cafetiers qui ont besoin d'ouvrir parce que sinon ils crèvent. Hein, ce n'est pas les aides qui sont données qui vont les empêcher de crever. Hein, surtout que les prêts qui sont donnés sont remboursables en 2022. On va voir après 2022 le nombre de sociétés qui se cassent la gueule, qui se cassent la figure, pardon, et qui ne pourront pas rembourser les prêts. Donc là, on en reparlera, mais ce sera pour le prochain président. Et puis, ils ont besoin de culture. Évidemment, on a besoin de culture. On ne peut pas se contenter de regarder la télé.
Donc, soutien entier, il faut petit à petit, bien sûr, en respectant les normes, mais il faut petit à petit rouvrir les théâtres, rouvrir toutes ces choses-là qui sont vitales. Il y a des solutions qui existent, mais non, en haut, ça reste bloqué parce que j'ai décidé, c'est moi le maître du temps. Enfin, je veux dire, on est dans...
Il y a quand même le milieu médical et scientifique qui appelle à un confinement strict. Et là, on s'y dirige. Ben, alors, est-ce qu'on pourra
on l'a eu effectivement.
Les salles de théâtre.
Oui, mais c'est... Alors, on l'a eu effectivement. Je m'excuse, Fred, un instant. Il y a un an, mais rien n'a été fait après dans le déconfinement pour déconfiner petit à petit et prendre des mesures si jamais ça revenait. La France Insoumise, qui est toujours diabolisée dans les médias, avait pourtant fait dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous faites si ça arrive de nouveau l'été et l'automne dernier? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a renforcé les hôpitaux? Est-ce qu'on a commencé à former du personnel? Non, rien, absolument rien n'a été fait. Et contrairement à ce qu'il dit, Macron, il continue à fermer des hôpitaux. J'ai encore signé récemment...
Fermer
des lits d'hôpitaux, j'ai encore... Et même des hôpitaux, puisqu'à Nancy, ils veulent fermer... C'est foutre de la gueule du monde, il n'y a pas d'autre mot. Je m'excuse d'être mal poli, mais on en est là.
Philippe Audegon et Frédéric Beugnier de la France Insoumise Grand Arras au micro de Radio PFM. On écoute maintenant Grégory Watin, conseiller municipal d'opposition Arras Écologie. Il est lui-même artiste plasticien.
Là, il y a une question de survie en dehors de la question de la Covid, c'est-à-dire est-ce que l'on veut survivre sans culture ? Je ne crois pas qu'on puisse. C'est-à-dire qu'on a dissocié tout à coup les questions sanitaires des questions culturelles comme si on était dans un pays qui vivait sans culture. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a quelque chose qui dépasse juste une question d'une activité professionnelle. On ne parle pas simplement de gens qui essayent de sauver leur boulot, on parle de gens aussi qui essayent de sauver une certaine idée du vivre ensemble au travers de la culture. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment dans les mesures qui ne sont pas prises par le ministère et par le gouvernement, c'est que on ne tient pas compte de ce risque d'un effondrement de la créativité dans notre pays. Et ça, le fait de ne pas prendre en compte c'est un vrai problème. C'est-à-dire que demain, comment on va remplir des théâtres si on n'a plus personne pour écrire les pièces ? Comment on fera sans les compositeurs ? Il y a un effondrement de tout l'écosystème de la culture en ce moment. N'est visible que la question des ouvertures des lieux de diffusion de culture, mais en réalité derrière ça se cache l'iceberg de l'effondrement de la créativité. C'est-à-dire que oui, les lieux de culture, de diffusion de culture sont pour le moment fermés, mais derrière cette fermeture, c'est aussi tous ceux qui fabriquent la culture qui sont en train de disparaître, clairement. Et si les lieux de culture ne sont pas, comme ils le sont aujourd'hui, occupés pour faire du bruit, et il faut faire du bruit pour sauver ça, on n'arrivera pas à sauver tout l'écosystème qui découle de ces lieux de diffusion. Donc oui, je pense que c'est très important aujourd'hui de rouvrir les lieux de culture, parce qu'en plus on sait, l'aberration quand même, hein, de pouvoir prendre un train bondé pendant 4 heures et pas de pouvoir aller dans un théâtre à moitié vide ou dans un musée où on est 5 personnes, il n'y a aucune cohérence là-dedans, donc les gens l'ont compris et le savent, voilà, au-delà du problème de fond, il y a un problème de forme quand même qui pose question, quoi, sur le choix de laisser les lieux de culture complètement fermés. Dans d'autres pays, ça s'est rouvert, il n'y a pas pour autant de problème par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette question d'un effondrement du système, du milieu culturel. Et j'avais dit à Karim Adeli qu'on était maintenant en état d'urgence culturelle comme on l'est en état d'urgence climatique, quoi. En tout cas, pour notre pays, moi, ça m'inquiète.
Alors, samedi, il y a eu un happening culturel sur le marché d'Arras. Mercredi après-midi, il y a eu une action qui a plus ou moins été avortée devant le théâtre, ou peut-être même au sein du théâtre d'Arras. Est-ce que vous avez participé ? Est-ce que vous avez des news ? Et pourquoi ça s'est pas fait à Arras, l'occupation du théâtre ?
Alors, vous vous doutez bien que je suis ça de très près et puis que je participe en tant qu'acteur culturel moi-même à ces réunions et ces décisions. Alors sur l'occupation du théâtre, n'étant pas moi-même dans la partie d'art dramatique, j'ai pas vu l'organisation se faire, contrairement à ce qui s'était passé le samedi sur le marché. Oui, moi ça m'embête un peu qu'on n'ait pas pu aller au bout de l'occupation du théâtre d'Arras, parce que c'était quand même ça aurait fait sens. Après, j'ai pas les infos complètes pour pouvoir juger de comment ça s'est passé et ce qui a empêché l'occupation du théâtre. Mais je pense que l'occupation des théâtres, c'est quand même un symbole fort dans un moment quand même critique de notre société. Là, et oui, c'est dommage que le théâtre d'Arras ne soit pas lui-même occupé. Je pense que peut-être ça va arriver quand même dans les jours qui arrivent et je le souhaite. Ouais.
Grégory Watin, conseiller municipal d'opposition Arras Écologie, joint par téléphone jeudi matin. Dernier témoignage dans ce sujet aujourd'hui et pas les moins importants, ceux de deux étudiantes en art du spectacle à l'Université d'Artois à Arras, Magenta et Julie, interviewées mercredi soir par Boris et Maliena pour Radio PFM. Elles commencent par nous parler des conditions dans lesquelles elles suivent leurs cours cette année.
On devait voir des spectacles qui ont été annulés. On nous propose de regarder des fois des spectacles qu'on nous envoie, les profs nous envoient des spectacles pour du coup des devoirs à rendre, mais sinon après c'est notre plein gré, si on a envie de regarder un spectacle, faut qu'on le cherche par nous-mêmes, quoi.
Après, en début d'année, vers septembre, octobre, novembre, on a eu l'opportunité, quand les théâtres ont réouvert, d'assister à quelques spectacles, notamment au tandem de Douai, où est-ce qu'on a eu la chance de voir le spectacle de Gisèle Vienne. Mais du coup, on avait tous pris l'abonnement qui avait été recommandé par, par nos enseignants. On a dû avoir une galère pour se faire rembourser ou non. Ça a été assez compliqué en sachant qu'on avait réservé pour plusieurs spectacles qui étaient du coup dans notre parcours. Et du coup, on se retrouve à devoir trouver des choses de nous-mêmes et c'est assez compliqué.
Est-ce que vous vous sentez soutenu par vos professeurs ? Est-ce que vos professeurs sont dans la même optique que vous ? Est-ce qu'ils sont aussi inquiets que vous ?
En vrai, on a quand même pas mal de professeurs qui sont de notre côté. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de chance à l'Université d'Artois d'avoir des professeurs, surtout en art du spectacle, de notre côté, qui nous soutiennent et qui sont vraiment présents pour nous. Après, c'est quand même compliqué et on est tous un peu dans le même bateau au niveau des profs et des élèves. On a tous un ras-le-bol, même du Zoom, etc. C'est compliqué, vraiment.
Il faut savoir que les profs en art du spectacle ont été les premiers à aller vers les administrations et pour nos cours de pratique, demander au secrétariat est-ce qu'on pourrait avoir des dérogations spécifiques pour nos cours en présentiel. Ce qui a été, on en a eu quelques-uns et franchement, c'était un soulagement de revoir nos camarades de classe en vrai, quoi. On s'est retrouvés dans des situations assez étranges, à devoir faire des cours sur Messenger, où est-ce qu'on était 8, on devait faire des rotations parce que les visios sur Messenger, c'est 8 maximum. Enfin, il y a eu des profs qui se sont retrouvés assez perdus et démunis face à cette situation, ce que je comprends totalement. Je pense qu'il y a eu peut-être un manque d'encadrement à ce niveau-là, parce que souvent, c'est des intervenants extérieurs qui viennent nous donner des cours aussi. En soi, on peut pas en vouloir aux profs, parce que la majorité sont énormément investis dans notre santé mentale. Ils sont là, ils essaient de nous soutenir, à nous ne pas hésiter de nous envoyer des messages, des mails, etc. si jamais on ne va pas. Ce qui est l'avantage, vu qu'on est une petite promo. Je pense que dans certains sens, ils sont aussi perdus que nous. Ouais, pareil, comme tu dis, il y a un ras-le-bol total, surtout en ce qui est des cours en visio. De toute manière, on le voit, il y a de moins en moins d'élèves qui sont sur les cours en visio. Les personnes sont absentes ou, comme on parlait tout à l'heure, coupent leur caméra ou coupent leur micro et font complètement leur vie à côté. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est devenu complètement banalisé, quoi. Genre, on n'assiste plus aux cours, on met le cours en fond et puis... Et puis voilà quoi, enfin, en fait, même si c'est quelque chose qui nous intéresse, on a notre vie à côté, on est chez nous à côté, du coup, quel intérêt quoi de suivre le cours alors que t'as, je sais pas, ton repas à préparer ou quelque chose comme ça quoi.
Pour rebondir sur la question de Méliana, donc l'impact que ça a vous directement sur vos études, il doit être assez important puisque en art du spectacle, art vivant, où largement le corps est mis en avant, où il y a du jeu, vous avez des partenariats avec des structures pour montrer vos spectacles, faire des choses. Est-ce que justement à ce niveau-là, l'université vous dise, écoutez, on sait que c'est compliqué, ne vous inquiétez pas, ou alors, il vous laisse forcément livrer à vous-même.
Bon, je trouve qu'on est quand même pas mal livré à nous-mêmes. Après, ça joue énormément parce que déjà, on a des stages à faire. Nous, on a un parcours économique. Et du coup, on a des stages dans des structures culturelles à faire, mais on ne peut pas les faire en fait. Elles sont toutes fermées. C'est pas possible de faire ça. Du coup, ils essayent de faire des micmacs pour trouver quelque chose qui va remplacer, mais ça ne remplace pas vraiment parce qu'un stage, on rencontre des gens et là, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. On se fait des contacts et là, on ne va pas finalement en faire, en avoir en tout cas. Et pareil, normalement, il y a le service culturel au sein de l'Université d'Artois et normalement, on rencontre des artistes, on fait des ateliers, on voit des spectacles et là, on n'a plus tout ça. Enfin, on a tout ce contact-là avec les artistes et se faire des contacts qui n'existent plus, qui est vraiment plus du tout présent dans notre cursus universitaire en tout cas.
En fait, c'est vrai qu'en France, c'est le monde du spectacle, c'est vachement un truc de réseau, en fait. Et en fait, le réseau, tu commences à le construire dès ton arrivée à l'université. On a la chance que ça se passe en L3. Parce que imaginons en L1, L2, on soit dans cette situation. Là, on a quand même pu rencontrer des artistes, rencontrer des professionnels, etc. Mais imaginons que là, tous les contacts qu'on est censé se faire en sortant de cette licence pour rentrer directement dans le milieu du travail... ils sont quasi absents et là on rate presque une année où est-ce que, comme tu parlais, on a des cours de pratique également, des cours de corps et voix, où est-ce qu'on s'entraîne pour notre oralité, pour notre jeu d'acteur, parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui vont dans cette licence pour partir vers tout ce qui va être de l'acting, comédien, etc. Comment expliquer de devoir présenter... on a des cours de danse également, comment faire de la danse chez soi dans ton...
devant un écran
Carrément, mais...
Ah, ça, on a dû faire ça. Hein.
C'était sur les cours sur Messenger en plus. On se retrouve
Vous aviez déjà ça en visio avec.
Franchement, entre la musique qui bug et du coup ton écran bug et tu vois la personne danser mais il n'y a pas de son, mais
c'était vraiment bizarre. Et tu te retrouves, tu sais, des fois tu fais des exercices où est-ce qu'on est tous collectivement en train de respirer collectivement, etc. Là, on était sur le sol chez nous. Allez-y, concentrez-vous sur votre respiration. Et t'es tout seul chez toi et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi, enfin,
genre, avec c'est le chien qui aboie à côté ou le petit frère qui crie. Ouais, bon, j'imagine, c'est... ouais. Et puis, il y a le rapport avec le public, évidemment, puisque c'est aussi là, aussi, je pense surtout aux premières années, éventuellement, mais aussi des autres. Ils font leur apprentissage aussi. Le rapport avec le public, c'est là où on détermine un petit peu la façon de prendre confiance en soi, justement, pour pouvoir continuer.
Et puis, tu te rends compte aussi de l'esthétique qui te plaît au fur et à mesure des spectacles que tu découvres. Enfin, c'est tout des choses qui paraissent bidons, mais t'apprends à te faire ton avis sur la scénographie, sur tout ce qui va... Enfin, quand tu vas voir un spectacle, tu vas pas juste voir un spectacle, tu découvres un univers, tu découvres une nouvelle structure, tu découvres les personnes de la billetterie ou le contact que t'as avec les gens du bar. Là, tout ça, c'est absent quand tu vas voir un spectacle en visio. Et toutes ces petits spectacles, ces petites rencontres qui vont créer ton identité artistique sont totalement absents, en fait, et franchement, je me répète, mais je plains les premières années. Du coup, j'avais une professeure du coup, qui m'expliquait qu'il y avait un première année en art du spectacle qui lui disait je suis en art du spectacle et j'ai encore vu aucun spectacle. Et c'est ultra triste, en fait, cette situation où est-ce que tu veux travailler là-dedans, mais en fait, au final, tu sais même plus ce que c'est, quoi. Et surtout, je veux rebondir sur le terme que tu as utilisé de non-essentiel au début, essentiel, non-essentiel. Ça me perturbe tellement, cette notion. On a été induit dans cette idée de séparer les personnes en deux catégories. Il y a les essentiels et il y a les non-essentiels. Et avant ça, avant ce mot qui a été projeté comme ça par le gouvernement, il n'y avait pas cette séparation, en fait, peut-être pour certaines personnes. Mais maintenant, vraiment, on a été codifié dans notre manière de penser qu'il y a ce type de personnes et ce non-type, enfin, et cet autre type de personnes. Et c'est vraiment un terme que j'espère va finir par disparaître, mais j'ai peur qu'au final, non. Mais c'est vraiment genre ce truc de modifier la façon de penser par le langage qui est arrivé comme ça par le gouvernement qui me perturbe énormément avec ce truc d'être labellisé non essentiel.
Et puis en plus, on a du mal à s'y retrouver parce que les librairies, elles ont été catégorisées comme non essentielles au début et maintenant elles sont essentielles. Donc on ne sait plus trop et c'est vrai qu'on est inquiet. Déjà, moi, je ne fais pas de spectacle, etc. Je ne suis pas du tout dans ce domaine. Mais déjà, je suis inquiète parce que la culture nous manque. Et donc, j'imagine même pas vous. En fait, parce que c'est le métier, c'est vous voulez travailler dans ce domaine. J'imagine que vous devez être inquiète pour la suite. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire après la licence? Est-ce que ça vous a mis des doutes, justement, cette situation?
Moi, j'ai pas trop de doutes sur ce que je veux faire après. Je pense que quoi qu'il arrive, la culture, elle est là et elle sera toujours présente, même si pour l'instant, on nous met le doute. Mais les gens sont en train de se battre pour ça. Et du coup, j'ai pas de doute là-dessus, genre. La culture va continuer et ça ne s'arrêtera pas. Enfin, moi, j'ai un projet de vie. J'espère qu'il va pouvoir aboutir et j'espère aller dans ce sens-là. Mais je voulais juste rebondir sur un truc que Magenta a dit tout à l'heure. Nous, en tout cas, en art du spectacle, enfin, moi, je remets un peu en cause notre diplôme qu'on va avoir à la fin de l'année parce qu'on est censé vraiment créer, rencontrer des gens, aller voir des spectacles, chose qu'on ne fait pas là. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Et du coup, je remets en cause vraiment le diplôme qu'on va avoir à la fin de l'année.
Parce qu'en soi, ouais, on est censé avoir ce diplôme de compétences, mais on ne les aura pas acquises durant cette licence. Du coup, c'est un peu complexe. En ce qui concerne, tu disais que tu n'étais pas concernée par ce qui est culturel, mais je suis sûre que tu vas voir des concerts en soi ou des festivals. Du coup, en soi, même plus ou moins loin, tout le monde est connecté par le monde du spectacle vivant. Tu vois, que ce soit un spectacle en plein air ou que tu aies des enfants et que tu les emmènes voir, je ne sais pas, un truc de marionnette. Genre vraiment, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est partout. Et en fait, on nous dit, ouais, c'est dans les théâtres et tout, parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. Mais concrètement, en fait, c'est partout, tu vois. Enfin, et du coup, en ce qui me concerne, mon projet professionnel, moi, c'est de partir dans la technique. J'aimerais bien être régisseuse. Bon, disons technicienne lumière, du coup, pour des concerts et pour des spectacles. Et c'est vrai que là, je me dis, en sortant de cette licence, je veux commencer mon statut d'intermittence. Comment c'est possible, en fait, il y a aucun spectacle, il y a aucun concert. Pour les intermittents actuels, soit il y a des aides, etc. Pour ceux qui veulent devenir intermittents, comment ça se passe, du coup? Parce que j'ai fait aucune heure. Comment est-ce que je peux avoir, tu vois, genre une sorte de... je sais pas, indemnité si j'ai jamais travaillé avant pour rentrer dans ce statut. C'est vraiment compliqué et du coup, je suis en pause pour l'instant.
toutes les deux, on a quelques pistes pour essayer de se diriger, partir vers d'autres objectifs en attendant, je pense, de se retourner vraiment vers ce qu'on aime, ce que j'espère fortement va revenir. Mais en attendant, juste pour revenir sur l'université et l'encadrement, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que contractuelle étudiant, technicienne, collaboratrice artistique de la Ruche, la salle de spectacle de l'Université d'Artois. J'ai pu continuer mon contrat, même pendant cette période actuelle. On réussit, enfin, il y a quand même des événements qui se passent, entre guillemets, et tout. Du coup, ça me permet quand même de travailler. Mais je me dis, en sortant de ça, je ne sais pas ce qui est possible en tant que technicienne à l'heure actuelle, quoi.
Les théâtres occupés, ça commence à foisonner un petit peu partout. Vous avez connu un petit événement aussi au Théâtre du Nord. Vous pouvez nous en parler un peu, parce que le Théâtre du Nord, hop, ça y est, il est occupé.
Yes, ouais, il est occupé. On n'a pas pu rentrer au sein du Théâtre du Nord, mais ils ont organisé une petite manifestation assez festive avec de la musique, de la danse, des performances, des acrobates, des circassiens. C'était assez chouette, du coup on y a été. Et déjà ça a fait beaucoup de bien de pouvoir voir vraiment du monde. Déjà ça fait du bien parce qu'on s'est dit, oh, on n'est pas tout seul en fait, il y a plein de monde qui soutient et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et écouter de la musique tous ensemble, pouvoir danser, voir des gens danser, voir des circassiens, enfin ça faisait vraiment du bien en tout cas. Enfin moi je l'ai plus senti comme ça nous fait vraiment du bien.
Et il y avait beaucoup d'étudiants à cet événement ?
Bah pas tant que ça en fait au final, c'était plutôt des intermittents, il y avait un stand de la CGT.
Ouais, non, il n'y avait
pas tant d'étudiants que ça. D'ailleurs, on a été surprises toutes les deux parce qu'on s'est dit en fait au final on est un peu le futur, du coup les prochains concernés par tout ça, même concernés actuellement par ça. C'est vrai qu'on a été surprise de voir pas autant d'étudiants que ça. Je pense que ça après l'événement-là, c'était fait un peu dernière minute, dans le sens où est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de communication par rapport à ça. C'était peut-être juste le réseau des personnes autour du Théâtre du Nord qui ont été les premiers concernés. Et je me pense que par la suite, de toute façon, là, on le voit dans les étudiants d'art du spectacle de l'Université d'Artois, ils sont tous ultra motivés à l'idée de que ça bouge, quoi, qu'on occupe les théâtres, qu'on le gouvernement nous entende et que ça même si ça ne va pas être complètement comme avant, qu'il y ait au moins des promesses, des actions qui montrent qu'on est vers un pas pour aller vers un monde meilleur.
Julie et Magenta, étudiantes en art du spectacle à l'université d'Artois à Arras. Elles étaient au micro de Boris et Meliana mercredi soir. Alors, occupation de lieux culturels à Arras ou pas, on suivra ça de près sur PFM ces prochains jours. Info 30, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine édition lundi, 7h30, 12h30 et 18h. A plus.
Salut à toi l'intermittent, salut au spectacle vivant, salut à toi le comédien, salut à toi le musicien, salut à toi le jongleur, salut à toi le voltigeur, salut à toi le technicien, salut à toi le plasticien, salut à toi le créateur, salut à toi le danseur, salut à toi l'électro, salut à toi le machinot, salut à toi le régisseur, salut à toi le manager, salut à toi la photo, salut à toi le chapiteau, salut à vous les saltimbanques, salut à toi qui est dans ta planque. Salut à toi le perchiste, salut à toi percussionniste, salut à toi le cadreur, salut à toi le réalisateur, salut à toi le graphiste, salut à toi marionnettiste, salut à toi et ton assaut, salut à toi qui est au plateau, salut à toi le décorateur, salut à toi le monteur, salut à toi le chorégraphe, salut à toi le scénographe, salut à toi le lighteur, salut à toi l'emploi jeune, salut à toi et ton camtar, salut à toi le RMA, salut à toi le gréviste, salut à toi l'accessoiriste. Salut à toi le cinéma, salut à toi le théâtre, salut à toi le RMiste, salut à vous tous les artistes, salut à toi le circassien, salut à tous les baladins, salut à toi le rôdi, salut à toi qui est au catering, salut à toi qui maquille, salut à vous dans toutes les villes, salut à toi tous les câbles, salut à toi le social, salut à toi le costumier, salut à toi le sondier, salut à toi l'étalonneur, salut à vous 507 heures, salut à toi le mort-vivant, salut aussi à tous les champs. Salut à toi metteur en scène, salut à toi le Larsen, salut à vous les employeurs, salut à toi organisateur, salut à vous les cachets, salut à toi indemnité, salut à vous les fiches de paye, salut vos yeux et vos oreilles, salut aussi à tous les groupes, du Pas-de-Calais jusqu'au Languedoc, salut à vous les compagnies, salut à toi qui est vernis, salut à vous tous les scripts, salut à toi le comique, salut à vous dans tous les cirques.